la 3, la 2, c'est bon.
Et 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Kawa présente TVNR. L'actu média, toutes les deux semaines.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 112e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui savonne l'actualité des médias toutes les deux semaines. Nous nous retrouvons encore avec ce nouvel épisode avec Setsunael, Joachim, bonjour.
Oui, bonsoir à tous.
Et avec Olivier.
Bonsoir, ou bonjour.
Ou bonjour,
à quel vous écoutez ce podcast.
Bonjour, soir.
C'est comme toujours, le podcast, c'est fascinant, on l'écoute quand on veut, où vous voulez. Et je vous rappelle que toutes les archives sont sur radiokawa.com, évidemment. Et on va commencer tout de suite ce 112e numéro avec le suivi. Le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actualité déjà évoqués lors de précédents épisodes. Et on commence tout de suite avec un rachat, puisque Gulli devient officiellement propriété du groupe M6. Donc M6 qui a en plus racheté d'autres chaînes du groupe Lagardère. La nouvelle
c'était
était...
un package.
Voilà, c'est un package spécial, parce que tant qu'à faire, autant tout revendre, hein, visiblement. Enfin, quasiment tout, vous allez voir. Donc M6, ça faisait déjà quelques jours qu'on le savait, a récupéré une bonne partie des chaînes de télévision, donc c'est les chaînes jeunesse, donc Gulli, Canal+, Tigi, les chaînes musicales MCM, oui, MCM existe encore, RFM TV, MCM Top.
Voilà, MCM diffuse en boucle à peu près des épisodes de Robot Chicken ainsi que des séries américaines, c'est plus de la musique.
Oui, non, non, oui, c'est vrai que... plus beaucoup depuis que justement ils avaient créé les allitérations MCM Pop, oui, qui est devenu RFM TV.
Oui, parce que de temps en temps tu vas dans des cafés où ça passe du clip à la chaîne. Donc c'est quelle est cette chaîne mystérieuse qui passe encore des clips de nos jours?
C'est les chaînes de snack, hein. C'est Tracer Ban ou RFM TV. c'est l'un ou l'autre.
Ou M6 Musique si les
c'est
gens
vrai
ont cette chaîne.
Oui,
parce que c'est une rumeur, hein. Il paraît que cette chaîne existe.
Et donc, aussi une autre chaîne que le groupe MCR a racheté, c'est Elle Girl TV.
Anciennement Fille TV.
C'est un peu pour les filles,
voilà,
c'est ça,
oui, c'est ça. C'était une chaîne qui diffusait aussi des séries à l'appel. Et j'avoue que je ne connais pas trop
et
la programmation
qui
actuelle.
Qui diffusait Ellen DeGeneres en plus 1 en anglais.
Ouh là là, ah oui, carrément.
Ah oui, non, c'était
niche,
curieux.
Mais oui.
Mais pourquoi pas.
Voilà.
Non, mais juste en aparté, je pense que ça aurait été c'est un très bon programme pour une autre chaîne, sauf qu'ils l'ont foutu là.
Oui, c'est
oui,
ça.
Mais si c'est Fille ou Girl TV, ça fait très jeune. Et Ellen DeGeneres, je pense pas que ce soit si jeune que ça.
Non, c'est plus, c'est un public un peu
plus
féminin,
urbain,
forcément, mais.
Urbain,
pas...
vingtaine, trentaine, quoi.
Trentaine, pense. Ouais, même, hein, clairement. Hein.
Oui, oui, c'est un programme de l'après-midi, vraiment prévu, entre guillemets, pour ce qu'on appelle les ménagères, ou, ça c'est clairement ça. Donc la seule chaîne qui n'arrive pas chez M6, c'est Mezzo, donc la chaîne de musique classique, qui quand même a connu beaucoup d'allitérations à l'international, et donc se porte plutôt bien, et donc ça visiblement, ça va rester une propriété minoritaire de Lagardère.
Ouais, parce que je crois que Canal a un peu d'argent dessus aussi. Parce que,
voilà, il y a plusieurs actionnaires en fait.
C'est plutôt pas mal pour les chaînes internationales, vu que, surprise, Mezzo n'est pas une chaîne difficile à traduire.
Oui, non, c'est ça. La musique classique, ça passe assez facilement. Tu mets quelques sous-titres pour les opéras et ça passe tout seul.
Oui.
En plus, M6 obtient toutes les chaînes internationales de Gulli aussi, donc tout ce qui est Afrique et
ouais, Russie,
tout ce qui était Russie, voilà.
Et
en arabe, hein. Non,
Émirats arabes aussi. Ouais.
Voilà.
Mine de rien, sacré affaire pour M6.
Voilà, c'est quand même un gros jackpot parce que
quand on voit le
cake qu'on fait
à TF1
leader,
avec le nombre de chaînes qu'ils ont, en disant qu'ils sont en situation d'oligopole, enfin qu'ils ont trop de chaînes, M6 c'est pareil en pire au final.
Et
puis Gulli, c'est une vraie chaîne. Enfin,
c'est une
chaîne qui fait de l'audience, hein, sur une cible très particulière, mais qui fait de l'audience.
Je pense qu'on peut dire que en indirect, c'est quand même aussi une acquisition d'M6, mais de RTL Group, parce que clairement, les chaînes à l'international, c'est surprenant que ça reste vraiment dans le giron d'M6 à ce moment-là. Mm-hmm.
Non, maintenant, ils sont quasiment leaders entre guillemets sur la jeunesse. Avec toutes ces acquisitions, hors Disney, il restait plus grand chose. Hein.
Il te reste.
Sauf que Disney, c'est que sur abonnement, c'est ça. Sur le gratuit, ils sont leaders.
Alors, Disney Channel est généralement disponible, ça dépend des opérateurs, pour une bonne partie des opérateurs en gratuit. Après, t'as les variations.
Oui,
qui sont généralement
TNT
des chaînes
de base, si t'as zéro box
ah non,
et que t'as une
si
antenne râteau,
ah non,
pas,
non,
t'as
oui,
pas Disney.
Non.
Alors que tu
ah
as
non.
Gulli.
Oui, c'est la seule chaîne en gratuit râteau, c'est Gulli, puisque France 4 va disparaître, hein, rappelons-le.
Mm-hmm.
Donc Gulli France 4 et donc bientôt que Gulli, donc oui, clairement c'est une acquisition en or.
Et tu l'évoquais, Olivier, est-ce que c'est pas quand même un problème là que devrait se poser le CSA au niveau justement de la diversité des groupes des médias, où là on se retrouve avec M6 qui va...
M6 a déjà un nombre incalculable de chaînes, ne serait-ce que sur ATNT gratuite, il y a W9, Sister, Paris Première, alors qui
Je crois qu'ils sont, avec l'acquisition de Gulli, ça y est, ils sont au cap, ils sont au cap maximal.
Ouais. Quand on voit les misères qu'on fait à TF1 quand ils se sont remis dans TMC, enfin, on leur faisait remarquer qu'ils étaient. Alors, c'est des chaînes qui font peut-être plus d'audience, c'est peut-être ça le truc, c'est qu'M6 c'est un peu plus moyen. Je sais
pas. C'était des chaînes sur les créneaux avancés, sur les, quand même les premières cases de la TNT, et c'était vraiment des chaînes qui avaient un potentiel de généraliste. Je veux dire, Gulli, tant que ça reste vraiment 100% franco-français ou presque, les gens sont contents, quoi. Donc, à mon avis, personne va cracher sur ça.
Non mais mine de rien, ça fait là 2 ans qu'M6 fait les grands meubles, ils ont quand même racheté RTL, bon alors c'était plus ou moins le même groupe dès le départ, mais enfin oui, bref, ils ont racheté RTL. Il y a quand même un expansionnisme d'M6 qui se ressent pas forcément dans la qualité ou l'importance des budgets dans les programmes, les choses comme ça, mais ils se répandent en chaînes diverses et variées. Et là, Gulli, honnêtement, c'est une bonne affaire. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas que qui devait être sur les rangs pour racheter, parce que sur la cible du gamin, du petit, du jeune, qui va demander à papa ce qu'il veut à Noël, c'est quand même très prescripteur.
Parce que c'est ça, c'est que M6, en effet, comme tu dis, on n'a pas l'impression que sur la chaîne principale, justement, leurs audiences ne sont quand même pas folles. Ils sont toujours loin au niveau prime
time. France, hein. Enfin, ils sont toujours derrière TF1, quoi.
Ils sont toujours derrière TF1, mais ça reste quand même des audiences en baisse. On sent qu'au niveau...
Oui, ils sont moins sur la pente. On va dire qu'il y a eu une sorte d'arrêt que je situerais, moi, à peu près à l'époque de... Comment ça s'appelait, ça ? Rising Star. C'est là où ils ont voulu être plus gros que TF1. Ils se sont plantés. Et donc, ils ont décidé de revenir à ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire un peu la chaîne cheap. C'est un peu moche à dire, mais ils font la même chose que TF1 la plupart du temps, en moins bien ou moins cher. Parfois, ils ont des idées.
Parfois, les deux.
Parfois, genre Top Chef, c'était mieux que Master Chef. Enfin, après, on peut en discuter, mais...
c'est le meilleur concept, format des deux.
Ouais, c'était un meilleur format. C'était pas un aussi gros budget, mais comme quoi l'argent ne fait pas tout. Mais voilà, quand ils font Koh-Lanta, ils font The Island, enfin, ils essayent de copier au moins bien, et ils déclinent à l'infini les thèmes immobiliers, mode, bouffe et tout.
Et là, ça commence à saturer.
D'ailleurs, donc, breaking news, hein, là, ils sont en train de tourner actuellement, vraiment au moment où on enregistre, depuis jusqu'à samedi, une espèce de nouvelle émission de divertissement avec Cordula.
C'est le principe de leurs animateurs qui usent jusqu'à la moelle, quoi.
Avec vraiment, je pense, avec même des gars dans les plateaux et tout le public qui va être usé, vu que c'est des enregistrements qui commencent à 16h et qui se terminent à minuit.
Ouais, c'est l'enfer.
Ça promet vraiment le concept de l'enfer, totalement.
Après, c'est une chaîne une grosse rentabilité parce qu'ils savent vraiment gérer le budget super serré et compagnie. Par rapport à TF1 qui a toujours été dans...
Ça a toujours été un peu la stratégie un peu à l'allemande aussi. Hein,
C'est la petite chaîne qui monte dont on n'entend plus parler, mais ça reste quand même la deuxième chaîne privée de France, faut pas l'oublier. Dans l'absolu.
Et en revenu publicitaire aussi, parce que c'est sûr que tout est pas cher, donc forcément dès qu'il y a un peu de pub, ça rentre dans les caisses.
Est-ce que vous imaginez que justement ce rachat va permettre à Gulli aussi d'avoir d'autres programmes? On sait qu'ils avaient, ils ont quand même tenté quelques émissions un peu d'aventure familiale, etc.
Parce que vraiment, même si il y a une certaine politique de la pingrerie, on va dire, institutionnalisée, je les vois pas.
Ils sont capables de caler des rediffs de Norbert sur Gulli. Hein.
Oui, je pense.
Ouf, je déconne à peine. Hein.
Peut-être décliner des concepts qu'ils ont version gamin. Je sais pas, une sorte de Pékin Express du petit.
On n'a pas encore eu de Top Chef Kids.
Tu vois, Pékin Express, mais dans Paris, quoi. Genre,
Top Chef Kids
sera un format.
Top Chef Kids sera un format trop gros pour aller autre part qu'M6.
En soi, il y a déjà. Enfin, je prends aux États-Unis, par exemple, chez eux, ils ont le concept de Chopped, qui est une petite émission de cuisine de 1 heure où, en gros, c'est 4 chefs qui doivent faire des plats en une demi-heure avec des produits déjà délivrés. Et ils ont la version enfant aussi, qui fonctionne encore mieux qu'à la version adulte. Donc c'est pour ça que j'imaginais ce genre de concept.
Certaine culture du non-investissement chez M6 en général. Il faut voir les ambitions qu'ils affichaient pour Sister au lancement et ce qu'ils en ont fait concrètement.
Et pourtant, déjà, les ambitions de Cister
n'ont jamais duré, quoi.
Les ambitions de Cister n'étaient pas hautes déjà. Hein.
Oui, mais ils voulaient faire une chaîne familiale, je sais pas quoi. Il y avait une émission là, un peu geek scientifique avec Anissé, le Black, qui était anciennement à BFM TV, je sais pas si vous vous souvenez.
Ah, Monsieur Culture Geek.
Voilà, c'est ça. Qui a disparu. Alors, peut-être que je m'avance, je regarde pas Cister, peut-être qu'il est toujours.
Il est peut-être toujours là, dans une rediffusion à 23h.
Ça a été un truc qui a vite disparu.
Ça me dit pas grand-chose, ouais. C'était peut-être clairement les espèces d'émissions un peu au début, hein, les trucs en plateau hein, où tu lances vraiment des sujets.
De toute façon, quand tu lances une chaîne, il faut avoir des nouveautés à proposer, donc il faut avoir des trucs, quoi. Sinon, vraiment, c'est sans intérêt, quoi.
Mais ouais, qu'est-ce que pourrait investir M6 dans Gulli à part des rediffusions de trucs
Il pourrait se lancer en une politique ambitieuse de production d'animation française et autres. Enfin, je sais pas, hein, mais. En France, on a quand même de très bons animateurs reconnus.
Oui.
On pourrait avoir. Et il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, dans les années 80, il y avait des productions, coproductions franco-japonaises de prestige, du genre.
Oui, alors je pense que le plus gros succès de l'animation actuellement française et internationale qui s'appelle, bon, si vous suivez Twitter, si vous avez des données. Enfin, je pense que vous avez entendu parler Miraculous. Défunt et co-producteur avec plein de chaînes. Je pense pas que c'est grâce à TF1, hein, faut être honnête. Hein. Et de la même façon, ce serait pas grâce à M6.
Oui, mais je pense que l'animation, en plus, c'est un créneau qui est quand même moins cher que produire d'énormes fictions de prestige et tout. Je pense, hein, dans l'absolu. Et puis, il y a des succès. Il y a des trucs, un truc aussi... bête que n'importe quoi, Oggy les cafards et tout comme ça, ça a marché. Enfin, bête, je dis pas bête dans le sens simple, un petit concept, ça demande pas des moyens stratosphériques. Et ça se vend en plus. Alors, l'animation, s'il y a un truc qui se vend à l'inter, c'est ça, quoi. Une fois que vous avez un bon concept, il y a que du doublage en frais, le reste, c'est nickel. Voilà.
Ok, donc, ouais, en tout cas. Ouais.
Là, je me prends à rêver, hein. Je crois pas une seconde qu'M6 va mettre des bifs voilà. Mais sait-on jamais.
On va passer en tout cas de Gulli à une autre chaîne qui fait visiblement dans les économies.
Aussi.
C'est C8 et Canal+, et plus précisément les émissions de Cyril Hanouna, les émissions de H2O Productions, puisque selon le Canard Enchaîné, qui a mis la main sur les émoluments des intermittents travaillant pour donc ces émissions de Cyril Hanouna, ils ont aussi vu les salaires des chroniqueurs et de l'animateur, et ils se sont rendus compte que pendant que l'animateur et les chroniqueurs s'en mettent quand même assez bien dans les fouilles,
entre 300 et 500 euros par émission, hein, par
voilà.
Émission.
Donc ça va, c'est quand même correct pendant que...
Voilà, si vous appelez Jean-Michel Maire, vous avez déjà racheté à peu près le Congo. Hein,
c'est vrai. Oui, c'est ça, pour le fait de le faire tous les jours, ça va, hein, ça se passe bien à la fin du mois. Cyril Hanouna, lui, est autour de 35 000 euros par mois, mais évidemment...
C'est pas
c'est
si ouf, en fait, je trouve.
Oui, mais c'est un salaire. Après, il faut compter tous les dividendes qu'il reçoit de la boîte de production, plus les contrats qu'il a eus, notamment à l'époque avec Europe 1 et maintenant justement avec C8 aussi. Donc voilà, jusque-là, c'est assez correct aussi.
Ouais, on peut estimer, là, c'est plus trop... Mais l'article parlait qu'il est à la louche plusieurs millions d'euros sur vraiment les dividendes de H2O par an, qui n'est pas dégueulasse.
Donc ça va, je pense que ça fait un bon 13e
salaire de 35 000, je trouvais ça pas si stratosphérique, mais en fait, avec sa boîte de prod, il fait bien plus, à mon avis.
Oui,
il doit avoir l'intéressement, des bonus, des trucs comme ça.
C'est surtout là-dessus qu'il gagne de l'argent.
Reste une belle somme, hein, mais en télé, il y en a plusieurs qui touchent ça.
Oui, non, clairement. Le but n'est pas de dire qu'il gagne beaucoup plus que les autres. Ça, on en sait rien, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on n'en a pas une étude précise sur tous les salaires de tous les animateurs. Mais par contre, ce qu'on est sûr, visiblement, selon le Canard Enchaîné, c'est que les intermittents qui travaillent donc sur les émissions, les petites mains, entre guillemets, des émissions, touchent depuis le 1er janvier quasiment 30% de moins que l'année dernière, ce qui est quand même assez énorme, 30% de paye en moins. Le Canard Enchaîné explique qu'en fait, c'est visiblement toutes les émissions où des personnes travaillant pour la société d'édition de Canal+, sont actuellement concernées. Donc c'est quand même
si c'était déjà le cas pour pas mal d'intermittents, il me semble, sur Canal, là, sur l'année dernière, sur Canal, bah, rien que les guignols, l'exemple des guignols, tous les intermittents s'étaient vus couper leur paie petit à petit, au final.
Mm-hmm.
Ça me semble être malheureusement dans la continuité du groupe Canal qui essayait de raboter au maximum là où il peut raboter.
Voilà, c'est ça, c'est que c'est, visiblement, ils veulent faire des économies partout, et même sur ceux qui... justement, essaye de faire les émissions. Et en plus, entre guillemets, ici, c'est les émissions qui rapportent le plus au groupe Canal. Parce que c'est 8, les émissions de Cyril Hanouna, c'est clairement le moteur de la chaîne.
À qui ça rapporte le plus ? À Canal ou à H2O ?
C'est la question aussi. Il est vrai. Parce que, en effet, avec le contrat entre H2O et Canal+, du coup...
Je ne suis pas si sûr, au final, que ça rapporte tant que ça à Canal. Mm-hmm. C'est vite, t'es quasiment là. T'as Quotidien qui a fait son record d'audience jeudi. Mm-hmm. Donc, TMC était à quasiment 6% de part de marché sur la journée. C8 était à 3%.
Maintenant... Je relativise en disant qu'il y avait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu le soir qui a été un carton total.
Mais la part d'audience de C8 commence à s'y friter petit à petit, donc ça se ressent sur les recettes publicitaires. Je ne sais pas si c'est vraiment la gagne financière actuellement pour Canal avec C8. Hein. Mm-hmm. On avait déjà parlé dans les précédents numéros de TVNR qu'il y avait des pertes très grandes sur les chaînes gratuites du groupe Canal entre C-Star et C8. Mm-hmm. Pas sûr que ça soit si gagnant que ça pour le...
Après, le côté on baisse le montant des cachets d'intermittents, c'est une tendance de fond du groupe Canal depuis un paquet d'années, hein, pour connaître un petit peu. Non pas que j'ai été intermittent, mais j'ai pas mal de potes qui le sont. En fait, le problème, c'est que Canal a longtemps été un des mieux disants, on va dire, enfin un très bon employeur. Et là, il se recale un petit peu. Parce qu'il y avait des prods qui étaient parfois généreuses, en particulier celle de Levent Kim, il me semble, celle qui faisait le Grand Journal, qui maintenant fait Brut. Parce que c'était l'époque où il y avait du pognon à tous les étages et que tout le monde pouvait se servir largement, y compris bien payer ses petites mains. Mais ça fait quand même un paquet d'années, je dirais 8-9 ans, que les vannes se ferment assez férocement. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était quoi, il y a 2-3 ans, il y avait une monteuse d'Hanouna qui était venue sur le plateau pour parler des problèmes des intermittents. C'était déjà le même problème, en fait. C'était leur cachet qui avait baissé ou je ne sais plus quoi.
Oui, c'est vrai, je m'en souviens, oui.
Voilà, donc c'est un peu la même problématique. Chaque année, invariablement, ils baissent un peu les tarifs. Sachant que souvent, les intermittents se retrouvent un peu mariés avec une émission ou un employeur et sont un peu coincés, ils n'ont pas trop la latitude pour négocier. Parce qu'en fait, l'intermittent, c'est, on vous dit, vous êtes indépendant, vous pouvez aller où vous voulez, mais c'est un peu comme les problèmes de Uber ou les choses comme ça. C'est que, êtes-vous vraiment indépendant quand il y a 3 employeurs qui se partagent le marché, quoi ? Ou en tout cas, vous n'en avez que 3.
Et surtout ici, avec des quotidiennes, avec balance ton poste une fois par semaine, etc., c'est sûr que ça fait du taf.
En plus, voilà, ce qui arrive, c'est qu'en général, une fois que vous avez un employeur comme ça qui vous fait bosser au quotidien quasiment, et sachant qu'il suffit que vous fassiez vos heures d'intermittence pour avoir le statut d'intermittent à l'année, vous pouvez vous arrêter 6 mois derrière. Enfin, la plupart des gens qui sont dans l'audiovisuel, d'ailleurs, c'est un problème. On pourrait parler du fait que l'intermittence, c'est peut-être pas quelque chose qui serait recommandé pour l'audiovisuel, mais ça, c'est un autre problème. Puisque c'est pas pour ça qu'a été formé ce statut au départ. En gros, vous bossez, vous êtes payé correctement, l'indemnisation de l'intermittent, c'est plutôt pas mal, et surtout, en gros, quand vous faites vos heures à l'année, je sais plus c'est combien le quota, qui est important, mais pour des gens qui bossent à la télé, vous le faites très facilement, en bossant 3 mois. En gros, vous bossez 3 mois, vous vous arrêtez, limite. Ce qui arrange tout le monde, ça arrange les employeurs, parce qu'en gros, vous bossez pas assez chez eux pour que votre contrat soit qualifié en CDI. Vous avez vos indemnités de chômage pendant longtemps et vous pouvez rester des années à ce statut-là. En gros, ça fait plaisir à tout le monde et machin. Le truc, c'est qu'une fois que les cachets baissent, le statut devient beaucoup moins intéressant. Voilà. C'est spécifique aux mecs dans la technique à l'audiovisuel, mais il y a des abus absolus. Je connais des chaînes de télé privées qui, par exemple, ont des motards intermittents du spectacle. Je vois pas le rapport.
Des motards.
Bon. Ok. Oui.
Ou quand vous rentrez dans n'importe quelle chaîne de télé, la plupart des gens, du temps, les gens qui sont à l'accueil ne sont pas des employés de ces boîtes-là et sont souvent des intermittents. Enfin, ça arrive.
Oui, d'accord. Oui, on en est là.
Oui, mais non, mais il y a un abus absolu du statut d'intermittent. Si vous saviez, la plupart des gens que vous avez sur les salons, les gens, salons de l'agriculture, je sais pas quoi, les hôtes, hôtesses et compagnie, ce sont des intermittents du spectacle.
Okay.
En tout cas, ils sont au statut d'intermittent du spectacle. Après, voilà. C'est un statut qui a été créé au départ, au tout début, pour permettre aux théâtreux ou aux artistes qui travaillent longtemps sur une œuvre avant de la présenter au public, de pouvoir vivre de cette période de travail avant de présenter son œuvre. Voilà.
Là, on en est loin, clairement. Ça participe à une précarisation du travail qui...
Exactement. C'est
dans tout le monde des médias.
Précarité acceptée par tout le monde, parce que pour les salariés, c'est également un statut... Enfin, moi qui ai été pigiste longtemps, pigiste journaliste, c'est pas terrible, c'est correct, mais sans plus.
En
vous
n'êtes
pas très bien indemnisé, vous n'êtes pas forcément très bien payé. La pige intermittente, c'est le double, hein. C'est le double de la pige journaliste.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Moi, je sais qu'il y a des moments, la question s'est posée, les employeurs vous proposent, ils vous disent, ça vous dirait d'être payé plus pour le même taf? Au moment où vous réfléchissez. Le seul truc de l'intermittent, c'est que vous perdez la carte de presse. Mais bon, c'est un choix qui, après, vous dites, je fais le même boulot, je suis payé le double. Si je le fais 3 mois d'affilée, je peux m'arrêter de bosser, je suis payé pour le reste de l'année. Ça se réfléchit. Voilà. En sachant que le statut de la caisse de l'intermittence est en déficit chronique et il y a des négociations chaque année et à chaque fois on resserre la vis. Et ceux qui en pâtissent en général sont d'ailleurs ceux qui sont dans le spectacle vivant parce que eux ont du mal à faire leurs heures. Comme
bah
quoi,
oui, c'est
ça. Le système est complètement pourri.
Clairement. Bah, merci beaucoup pour ces éclaircissements autour de ce statut, en effet, assez précaire une nouvelle fois. On va passer, après cette petite pause, à l'actualité.
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur deux, et c'est sur Radio Kawa.
C'est parti pour l'actualité de ce 112e numéro de TVNR, et Olivier, je vais te rendre la parole, parce que tu voulais nous parler de la perquisition qui a eu lieu chez Mediapart, justement, dans le courant de la semaine.
Oui, bah, c'était lundi dernier. Alors, que dire? Eh ben, on a vu passer un tweet, je crois, de Fabrice Arfi, ce jour-là, qui dit « Ce jour-là, la brigade criminelle et deux procureurs sont présentés à Mediapart » pour obtenir des enregistrements. Au Because, c'était une enquête pour atteinte à la vie privée de messieurs Benalla et Kras. Alors, si on rembobine l'histoire, c'était le vendredi qui précède, Mediapart a sorti des enregistrements qui mettaient en scène Alexandre Benalla et Vincent Kras. Alors, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, ce sont les deux personnes qui jouaient le coup de poing à la place de la contrescarpe avec deux étudiants. Alors, Alexandre Benalla, tout le monde le voit qui c'est, hein. Et Kras, c'était son collègue qui était avec lui et tout.
Et les qui était aussi entendu.
Oui, bah, les deux, visiblement, étaient potes. Alors, Kras avait en plus le truc que lui, il était salarié d'En Marche, je crois. Bref, ils sont dans cette affaire.
Je crois que c'était une pâte à tartiner, Benalla.
Bah, à force, ouais.
Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux de Burger Quiz.
Voilà.
et donc, en fait, l'enregistrement de Mediapart révélait, la principale révélation, c'était que ces deux-là, parce que l'enregistrement date du 25 juillet, et ces deux-là étaient sous contrôle judiciaire à l'époque avec, parmi les obligations, ne pas se parler. Parce que, en général, quand vous êtes sous contrôle judiciaire, en gros, vous êtes mis en examen et vous avez des impératifs, genre, vous pouvez pas sortir du département, pas quitter le pays et tout. Et parmi leurs trucs, ils devaient pas se rencontrer. L'enregistrement est un dialogue entre les deux, donc forcément, ils se sont rencontrés. Alors déjà, c'est pas ça. Et en plus, dans l'enregistrement, ils parlent d'une affaire qui connexe à toute l'affaire Benalla. Alors le problème, c'est que l'affaire Benalla est assez complexe, hein, au final. Il n'y a pas tant de choses que ça qui soient oufissimes, mais c'est que des petits accros à la légalité
C'est plus des affaires, des petites affaires.
Il faut plein de trucs où on voit que le garçon prend des largesses assez importantes avec la légalité. Et donc là, il parle des contrats qu'ils ont signés avec un oligarque russe, enfin que Kras a signé avec un oligarque russe proche de Poutine et des milieux, comment dire, du grand banditisme russe. Donc un mec louche, comme il y en a plein en Russie, et donc Kras a visiblement un contrat de sécurité avec ce mec-là pour une somme assez importante, et Benalla aurait aidé à négocier ce contrat, et il l'aurait négocié quand il était au service d'Emmanuel Macron. Donc on peut se douter qu'il s'est servi peut-être de ses appuis ou l'importance qu'il avait. L'intérêt de l'affaire, c'est de savoir jusqu'où Macron ou l'entourage du président ou Matignon étaient au courant de tout ça. Pour en venir à Mediapart, donc ces enregistrements ont déclenché visiblement une enquête pour atteinte à la vie privée de Monsieur Benalla et Kras, puisqu'ils ont visiblement été enregistrés à leur insu. Et sachant que les enregistrements révèlent d'autres choses, c'est le non-respect du contrôle judiciaire. Là-dessus, visiblement, la justice n'est pas pressée d'enquêter. Mais par contre, la justice a décidé directement de savoir comment on a pu enregistrer ces deux personnes. Donc lundi, ils débarquent chez Mediapart pour demander c'est quoi vos sources, vos enregistrements, enfin, que sont les enregistrements. Et donc Mediapart a refusé de la perquisition au motif de protéger ses sources, parce qu'effectivement, s'ils lâchent l'enregistrement et éventuellement les échanges de mails ou les documents qui leur ont permis d'obtenir ces machins, visiblement, la justice, la police et donc éventuellement la hiérarchie politique pourraient savoir qui a enregistré donc Monsieur Benalla et Kras, pour quelle raison, à quel endroit et tout. Donc la personne qui a balancé l'info à Mediapart, c'est toujours le problème de la protection des sources, c'est un problème plus vaste.
Oui.
C'est que si vous laissez les flics, la justice attraper vos éléments de preuve et savoir comment vous les avez obtenus, vous risquez de décourager beaucoup de gens de dire quelque chose à la presse.
C'est une pression.
Voilà, si vous savez que vous lâchez une info hyper chaude à un média en se disant il faut que justice soit faite ou il y a un truc qui vous plaît pas, c'est tout le problème des lanceurs d'alerte. mais que vous savez que le journal, dès qu'un flic frappe à sa porte, il va baisser son froc et donner toutes les infos pour dire bah, c'est monsieur machin qui m'a dit ça, je pense que vous allez avoir du mal à obtenir des témoignages. Et donc l'intérêt de la presse, c'est que c'est une loi européenne qui protège normalement le secret des sources, c'est que vous n'êtes pas censé donner à la justice ou à la police les noms des personnes qui vous ont fourni des infos.
Puis il y avait un petit simili-vice de procédure, puisqu'au final, la demande de perquisition avait été faite pour une plainte qui semble être un peu
virtuelle.
Il n'y
avait pas de plainte, en fait, visiblement. C'est un signalement de Matignon suite à une question de valeurs actuelles. C'est un truc extrêmement compliqué.
C'est très complexe, voilà, mais c'est bizarre. C'est fait de façon pas très réglementaire, en plus, dans le tas.
Bah, ce qui est étonnant, c'est que ça sort vendredi et que lundi, ils sont déjà à la perquisition. On va dire que visiblement, il y a un certain empressement enquêté sur cet aspect de l'affaire, et beaucoup moins sur les infos que Mediapart et d'autres ont déjà sorties sur ses passeports diplomatiques, ses rapports avec la Russie, son entourage qui a l'air bizarre, et voire même le fait qu'il ait eu un poste important ou pas à l'Élysée, jusqu'à quand, et qu'est-ce qu'il savait des affaires de l'Élysée. Enfin, c'est une affaire qui est peut-être moins essentiel que ce que même Mediapart en fait, dans le sens où ils ont feuilletonné pas mal de la chose et en font une affaire d'État, c'est peut-être un peu moins ça. Mais c'est quand même préoccupant de savoir les rapports qu'il y a. Et même si c'est pas une affaire d'État, on a quand même eu un dernier rebondissement, c'était hier soir, enfin ce matin, c'est la chef de la sécurité de Matignon qui a démissionné suite à tout ça, parce que en fait, visiblement, il semblerait que l'enregistrement vienne de leur part. Voilà. Que cet enregistrement pirate, même si c'est démenti par Matignon, visiblement, elle a sauté. Donc, c'est que cet enregistrement viendrait de Matignon, a priori. On n'a pas la confirmation, mais c'est ce qu'on suppose.
Ok, ok. C'est vrai que c'est une histoire que je trouve assez dingue, notamment le fait, comme tu dis, c'est à souligner, c'est la protection des sources, c'est super important, c'est un principe journaliste.
Ah bah, le jour où on se baisse, enfin on abandonne là-dessus, je veux dire, plus personne ne donnera plus jamais rien à la presse, et alors chercher les révélations, on ne les trouvera jamais. Hein.
Déjà que la France n'est pas au top au niveau du classement
matière,
de liberté de la presse.
On n'est déjà pas au top, ouais. Il y a des pays où c'est vraiment une culture et ça ne viendrait même pas à l'esprit à la police d'essayer d'enquêter sur ces aspects-là des affaires, en tout cas officiellement. Et donc oui, pour revenir à cette affaire, il y a quand même eu en soutien une trentaine de sociétés journalistes de plein de médias, ça va de BFM à l'AFP, Europe, RTL, France Inter, L'Humanité, l'Obs, enfin bref, il y a tout le monde. Alors j'avais remarqué que le jour même, il y a eu un communiqué des 30, et j'avais remarqué que CNews n'y était pas, mais en fait, quelques heures après, CNews a fait son communiqué séparé. Donc visiblement, ils ont eu un retard à l'allumage, mais ils ont participé. Et voilà.
Ça va, c'est déjà ça. Parfait, ben merci beaucoup pour tous ces éléments, mais je pense que c'est important de rappeler justement tous ces petits principes, parce que pour le moment, la presse s'en prend un peu plein la figure, et que voilà, c'était un bon retour des choses. Olivier, à nouveau, tu vas nous parler aussi de l'humanité, qui a visiblement de gros problèmes financiers.
Ben, j'en avais juste approché en parlant, je crois, du média la dernière fois. Je ne dirais rien du média aujourd'hui, il y a zéro info.
Un peu déception.
Oui, on va les laisser tranquilles un petit peu. Mais j'avais dit que l'humanité avait des problèmes. Alors j'avais dit liquidation, mais non, comment j'y vais? C'était cessation de paiement, et là, ils sont en redressement judiciaire. Donc, ils sont déclarés en cessation de paiement fin janvier au tribunal de Bobigny, et ils sont à nouveau en train de lutter pour leur survie. Bon, faut savoir que l'humanité, ça va pas très fort depuis assez longtemps. Hein. Il y a 200 salariés. Oui. En sachant que c'est un titre historique, je veux dire que c'est un des derniers vraiment vieux canards. Parce que par exemple, Le Monde, que tout le monde prend pour un canard de référence, ben, c'est un canard de référence, mais Le Monde, ça date d'après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été créé par Hubert Meury. L'humanité, c'est 1904, fondé par Jean Jaurès, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Ça a été longtemps, comme il disait, l'organe du Parti communiste français, donc très lié au Parti communiste. Il reste lié au Parti communiste. Le lien s'est un peu distendu, mais enfin reste très marqué à gauche.
C'était dans les années 90 justement qu'ils ont arrêté d'être vraiment l'organe central. Disons qu'il y a toujours des liens.
Le problème, c'est que le Parti communiste a aussi arrêté d'être un peu central dans la vie politique française.
Il est vrai aussi. mais c'était une époque où ils avaient un peu toute l'activité presse. Bah, PIF s'était arrêté à ce moment-là, ça aussi.
Oui, car PIF Gadget était lié au Parti communiste français. Il fallait savoir. Alors donc les difficultés, les vraies difficultés, même si ça fait bien longtemps, il y a eu des plans sociaux, des trucs comme ça, c'est 2008 moi que je situerais, et c'est la période où l'humanité a vendu son premier siège social historique, enfin historique non, c'était le précédent, mais qui était à Saint-Denis et qui était l'œuvre d'Oscar Niemeyer, qui est l'architecte brésilien communiste qui était un peu lié à tout ça. C'est lui également qui a fait le bâtiment de la place du Colonel Fabien, qui est le siège du Parti communiste français. Donc c'est un bâtiment qui a été classé et donc qui avait quand même une valeur historique. Et donc ils ont été obligés de le vendre pour s'installer en location dans des bureaux en face du Stade de France, qui était déjà un peu le signe de leur déchéance.
Ouais.
Depuis, ils ont enchaîné les appels aux dons. Hein. Je crois qu'il y en a déjà eu 3. Pour aider le canard. Hein. C'est des appels aux dons, c'est même pas des demandes d'abonnement. Hein. C'est donner de l'argent pour nous sauver.
C'est de la souscription.
Hein. Voilà. Ouais. Vous avez rien en contrepartie. C'est...
Et toutes les préventes de places de la fête de l'UMA étaient des bons de soutien à l'UMA.
Ouais.
Aussi.
Donc, ça fait quand même quelques temps. Et heureusement qu'ils ont, on va dire, si ce n'est un électorat, en tout cas, une base politique un petit peu fidèle qui peut les aider à surnager. Parce que ça va pas fort, hein. Il est tiré à 50 000 exemplaires, mais pour 2017-2018, il a une baisse des ventes de 6%, ce qui fait qu'en moyenne, il vend 32 700 exemplaires, ce qui n'est pas nullissime, mais oui. Ce qui n'est pas ouf.
Mais je retiens toujours ces nombres-là, parce que
en
Belgique francophone, donc on n'est que, je pense, autour de 4 millions de personnes. Justement, le plus gros journal vend entre 80 000 et 90 000 exemplaires quand même, quotidien.
Ouais.
Donc, je trouve toujours dingue.
Pour une base de 4 millions de personnes. Ouais.
Voilà, je trouve toujours dingue quand je vois les quotidiens nationaux français. Maintenant, il est vrai que la presse locale a aussi une forte implantation, justement, dans les différentes régions. Et du coup, la presse nationale a un peu moins de place, je pense, que la presse locale. Mais je trouve ça toujours dingue de voir des journaux nationaux en France vendre seulement 32 000 exemplaires. Je trouve ça dingue. Mais voilà.
Après, il y a eu une dégringolade dans une dizaine, quinzaine d'années. Hein. Bah, Libé vendait le double de ce qu'ils vendent à l'heure actuelle il y a 20 ans.
Mais Libé commence à pas mal se développer sur les ventes vraiment en dématérialisé et sur leur site web totalement. Drahi veut faire de Libé, faire disparaître le papier.
Oui, il y a aussi un intéressant du papier, mais je pense que par exemple l'UMA n'a pas fait la mutation de son site internet. Moi, je sais par exemple,
spécial.
Le Monde, je suis abonné en numérique et pas du tout en papier. Quoi. Donc,
ils ont une offre numérique, après ils ont un site web, mais je pense que ça reste un site web comme les sites web des journaux en 95, quoi. C'est vraiment les actus. T'as pas de plus-value.
Si vous voulez le journal en PDF, tapez 1.
Mais pour revenir à ce que tu disais, Greg, sur les ventes de journaux, je pense que, étrangement, c'est mon point de vue que j'en ai, comme ça, parce que, à mon avis, ça fait comme au Canada, où tu vas avoir un journal, les quelques journaux papier qui restent là-bas, qui sont pas forcément méga nombreux. Bah, c'est comme si c'était une influence locale. Les gens sont contents d'avoir leur journal qui est lié, qui est vraiment à leur couleur, donc ils l'achètent, je pense.
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Vraiment, en effet, plus
donc,
le local.
Donc forcément, ça aide un peu aux ventes, alors que bah en France, tu vas avoir la PQR qui fonctionne, mais les journaux nationaux, bah c'est pas quelque chose qui va forcément générer de l'intérêt plutôt.
Mm-hmm. Non, je comprends. Je te laisse, Olivier, justement.
Je vais conclure en disant qu'il y a une petite reprise des abonnements, là, dernièrement, et des ventes en novembre-décembre, ce qui est quelque chose d'assez classique. Libé en avait bien profité à l'époque de Sarko. On va dire que quand les journaux sont dans l'opposition frontale, on va dire, avec le pouvoir actuel, ce qui est le cas de l'Humanité, qui n'est pas très macronophile, les ventes repartent. En gros, ça devient un peu le journal d'opposition, et tous ceux qui ne sont pas contents des présidents et des pouvoirs, qui en général sont assez nombreux, se mettent à lire machin. Donc ça repart un petit peu. Le truc, c'est qu'ils partent de loin et que ça va quand même super pas fort. J'ai peur que l'Humanité ferme, en sachant que bon, c'est quand même un symbole, donc je pense qu'il y aura un petit peu une mobilisation, y compris de la part de types qui sont pas du tout Humanité. J'imagine bien voir des mecs genre Christophe Barbier en train de dire acheter l'Humanité, vous voyez, parce que au niveau symbolique, je veux dire,
ça
on a enterré
bien,
dans les années 80 un canard qui s'appelait l'Aurore, pour ceux qui se souviennent, où Pierre Desproges a travaillé, mais pas seulement, c'est celui qui avait publié le J'accuse de Zola, et c'est un peu un canard historique, et c'est pas le premier ni le dernier à être mort, mais on va dire que l'UMA, c'est quand même un peu un des derniers grands ancêtres, et sa disparition sera un peu le symbole de vraiment la mort de la presse papier. Ce qui peut arriver, hein. En tout cas, il y a une soirée de soutien qui est organisée le 22 février, il va y avoir un...
Et là, suite au redressement judiciaire, ils ont 6 mois pour essayer d'améliorer la situation.
Oui, mais je pense qu'ils vont peut-être y arriver, peut-être que la souscription va marcher, et puis... Moi, je sens bien sortir du fond du bois un éventuel investisseur. Un truc à la... En plus, l'Humanité n'est pas un titre non plus énormissime, un genre de Pigasse ou un truc comme ça qui sort du bois juste pour le prestige, vous savez.
Est-ce que l'humain, ouais, mais est-ce que l'humain voudrait vraiment un investisseur externe?
Ça, le problème, c'est que, ouais, pour eux, idéologiquement et déontologiquement, ça serait un peu un choc, même, ouais. Mais bon, malheureusement, je pense que c'est un peu le problème. C'est ce qu'on dénonce, toujours la presse qui est aux mains de milliardaires, mais en même temps, s'il n'y avait pas de milliardaires, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de presse de nos jours. Hein, si,
en tout cas, au niveau de la presse nationale, ouais. En effet, ça devient compliqué. Et justement, on va parler d'autres investisseurs. Voilà, en parlant de milliardaires et d'investisseurs, on reste toujours dans la presse papier, mais cette fois-ci magazine, puisqu'on a appris aussi cette semaine que Patrick Drahi, donc le fameux PDG d'Altice, pourrait de son côté lâcher...
le compte Twitter Patoche Drahi, je crois.
Je ne connaissais pas.
C'est une parodique sur Patrick Drahi, tu as sûrement. Voilà.
Ah, en effet, je vais vite m'abonner. Donc Patrick Drahi qui pourrait lâcher l'Express, donc il détient le magazine depuis 2015, et il pourrait le céder à un certain Alain Veil. Alors, vous me direz, bah, Alain Veil, normalement, il l'est dans Altice, vu qu'il est PDG d'Altice France, et le grand patron de Next Radio TV qui a boosté BFM, RMC, etc. Bien, visiblement, ce petit tour de passe-passe pourrait permettre, en fait, à Alain Veil d'un peu s'émanciper avec l'Express, de justement un peu plus ou moins quitter le groupe sans quitter le groupe, on va dire ça comme ça, mais surtout ça risque de bousculer la rédaction parce que ça va provoquer l'ouverture d'une clause de cession qui devrait permettre justement à des journalistes de quitter l'entreprise avec des indemnités. On a des bruits qui courent que justement certains journalistes vont en profiter.
Sont déjà apparemment en train de faire les comptes.
Donc Alain Veil, lui, doit s'exprimer donc le 11 février, donc ce sera ce mardi, devant les salariés. Mais non, c'est même ce lundi, devant les salariés, pour expliquer un peu ce qu'il va faire de l'Express, notamment... expliquer, logiquement, il avait déjà expliqué dans une interview qu'il voulait faire une ligne éditoriale un peu à la manière du New York Times, avait-il annoncé, un peu plus mordant et un peu plus, je veux pas dire dans l'opposition, parce que il prenait l'exemple du New York Times face à Donald Trump, mais j'imagine qu'il va pas forcément faire un magazine aussi piquant face à Emmanuel Macron. Enfin, j'imagine mal l'Express comme cela, en tout cas.
Ça s'y prête plus difficilement, je veux dire.
Voilà.
Trump est quand même un personnage particulièrement clivant, ce qui est beaucoup moins Emmanuel Macron, malgré ce que disent certains. Enfin, il est quand même plus consensuel. Enfin, il est toujours possible de s'opposer, mais s'opposer pour s'opposer sur quelqu'un d'un peu plus lisse, ça peut devenir ridicule. Trump est particulièrement doué à provoquer des réactions épidermiques. Macron, je pense, c'est plus compliqué.
Non, clairement. Et de toute manière aussi, le but, c'est de faire remonter les ventes de l'Express. Ça, je pense que c'est chaque fois qu'un titre de presse va être repris, c'est de toute façon toujours le même objectif, vu que les chiffres de vente sont en baisse. Et voilà, on va voir ce que l'Express va devenir, mais... c'est de toute façon le problème de tous les news magazines aussi qui sont en perte de vitesse, qui se cherchent. Le nombre de fois qu'on a vu justement aussi Marianne et Le Point changer de l'éditorial ces dernières années, et ça ne va pas mieux.
Ils ont eu un redressement judiciaire aussi il n'y a pas si longtemps.
Ils ont eu un gros coup de mou, mais là, leur nouvelle formule,
ils ont un nouvel actionnaire en plus.
Dirons-nous, apparemment, j'ai l'impression, a l'air d'un peu plus... faire remonter la pente.
Ouais, une ligne éditoriale que moi je qualifierais de ceux qui font.
Ils ont un peu sombré, hein, je trouve, au niveau éditorial.
Oui, par contre, oui, en effet.
Un peu les beaux frères de gauche. Enfin, d'ailleurs, je vois plus trop où ils sont de gauche, mais bon.
Non, c'est vraiment la ligne édito de valeur avec un peu de peinture pour faire semblant.
Ouais. C'est marrant parce que c'était pas du tout leur positionnement au départ. Hein.
Bah oui, c'est pour ça. C'est les lignes éditoriales qui bougent comme ça au gré. Des actionnaires ou des rédacteurs en chef, surtout. C'est surtout
après,
ça.
Après, voilà, ils s'inspirent, ils disent que Valeurs, c'est bien reparti. Parce que Valeurs Actuelles, qui se vend plutôt correctement, était un titre quasi naufragé il y a 5 ans. Hein. C'était...
Non, c'est parce que ils ont trouvé le moyen de faire du putaclic, mais en papier.
Du clash buzz slash. Voilà quoi. Enfin, En papier.
En papier glacé.
Voilà, on va clôturer là-dessus tout ce.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la clause de cession qui s'ouvre, hein, et que ça va faire encore des gens qui vont prendre des gros chèques pour partir.
Ah oui.
Je suis pas sûr qu'il y en aura tant que ça, parce que il fait froid dehors en ce moment dans la presse écrite, donc je pense que vraiment ceux qui prennent des chèques, c'est des gens qui vont changer
alors,
de vie.
Alors ouais, mais ça pourrait peut-être pousser certains à se dire, bah, ça peut être une porte à justement à se dire, bah, est-ce que je change de métier avec un gros chèque?
Oui, en général, enfin, ce qui provoque la clause de cession, même si on dit je quitte ce journal car je ne supporte plus la ligne éditoriale ou j'ai d'autres ambitions, la plupart du temps, ce qui se vérifie, c'est que les vieux de la vieille qui sont en prison de la retraite, ils la prennent parce qu'ils prennent un gros chèque et ils foutent plus rien. Les jeunes, c'est plus rare. Voilà. Alors, je pense qu'à l'Express, il y a effectivement quelques vieilles plumes qui peut-être auront des envies de partir. On verra.
Voilà, moi aussi.
En sachant qu'ils ont déjà eu un plan social assez hardcore il y a quelques années, donc je pense que des branches mortes, il n'y en a plus trop, à mon avis.
Ouais, bon, on en trouve, je pense. On en trouve.
Oui, de toute façon, c'est toujours le but de ce genre
de plan social, oui.
De plan social, voilà.
Malheureusement, c'est le but d'un plan social et malheureusement de virer du monde.
Alors, il y en a eu un dans le groupe Altice hein, pour le rachat de BFM TV, Next Radio, tout ça. Le plan social était. La clause de cession était particulièrement peu avantageuse puisqu'elle était au minimum légal, c'est-à-dire un mois de salaire par année d'ancienneté. En gros, si vous avez 8 ans de boîte, vous avez 8 mois de salaire. Ce qui est bien, mais pas top, comme dit l'autre. Donc, c'est possible qu'ils fassent la même chose. Et la logique est de dire, nous ne voulons pas nous débarrasser des gens.
Okay.
Et insidieusement, c'est on ne veut pas lâcher trop de thunes. Voilà.
Et on n'aimerait pas qu'on fasse le journal à deux, si possible. À peu près, parce qu'il y a déjà pas
si bah, si tout le monde se barre, hein, ils peuvent embaucher plein de jeunes, il y en a plein de journalistes qui veulent bosser et qui ont la dalle.
Ils,
hein.
ils peuvent demander à Robert Laffont, il est peut-être un peu quelque...
Oui, tout à fait. En tout cas, il a des plans. Ouais.
C'est une possibilité. Pour...
Visiblement, il a lancé un journal des Gilets jaunes, hein, je sais pas si...
Oui, avec un gros bandeau, vite le RIC, sur la couverture, c'est assez magique.
Quand même.
Et dirait 50 000 exemplaires quand même, hein. C'est autant que son seul gros canard de groupe.
Entrepreneur escroc un petit peu, mais réactif en tout cas.
Ouais.
Ah oui, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on ne sait jamais si on retrouve un Robert Laffont qui va lancer l'Express Magazine sous peu.
Le rapide.
on va clôturer ici donc ce gros dossier justement presse-papier et on va
un
passer
peu plus
à quelque
de
chose. Oui, un truc beaucoup plus léger.
Beaucoup plus léger.
C'est l'émission Sortez-moi de là, je suis une célébrité qui.
Plutôt,
qui est de
plutôt retour. L'inverse, je suis une célébrité, sortez-moi. Ils n'ont pas encore inversé le titre. Je crois qu'il y a eu des.
Ah pardon.
Non, mais il y a pas mal. D'articles qui ont bizarrement fait l'erreur, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est bien, je suis une célébrité, sortez-moi de là.
Voilà, donc, comme ça le titre est juste. Donc la télé-réalité de TF1 qui reviendra avec Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes à la présentation. Visiblement, deux qui parfois aimeraient bien se barrer de TF1 mais qui reviennent toujours par la
deux
fenêtre.
Deux intercontrats à TF1, oui, en effet.
Voilà.
Dès qu'ils s'en vont, ils font un bide, donc ils reviennent. Hein.
Bah, disons que...
Boccolini n'a pas fait une très bonne saison. De Chavannes, par contre, bah, lui, il est content avec ses productions. Hein,
voilà, il continue à faire toutes ses productions en access avec les mariages, les hôtels.
Est-ce qu'il fait encore Next? Est-ce que ça existe toujours?
Non. Depuis que c'était juste sur Virgin 17, après, je pense que ça ferait un très bon programme débile pour la TNT, clairement, mais... oui.
C'est vieux pour mériter le revival remake, quoi.
C'est assez Next. Vous pouvez voir, il y a tous les épisodes de Next Made in France sur YouTube. Si un jour vous avez besoin de vous éteindre le cerveau, de vous vider, vous éteignez le cerveau, vous tapez Next Made in France sur YouTube, c'est splendide.
On se demandait qu'est-ce que Gulli pouvait mettre sur sa chaîne, voilà.
Alors, non.
Non. Donc Christophe de Chavannes, lui. Ça va quand même plus ou moins bien, c'est juste qu'il cherchait l'animation de quelque chose.
C'est-à-dire que depuis la fin de l'animation de The Wall, c'était un peu calmos.
Voilà. Christophe de Chavannes, justement, qui connaît bien cette télé-réalité, vu qu'il la présentait déjà en 2006 avec Jean-Pierre Foucault, c'était au Brésil, cette première édition, qui n'avait duré que 2 semaines. J'avais l'impression que ça avait duré plus longtemps, mais j'ai découvert que ça n'avait duré vraiment que 2 semaines.
Ouais,
3 émissions.
Je crois que c'était vraiment prévu pour que ça dure pas trop longtemps.
Moins longtemps que c'était prévu au départ, j'ai l'impression. Ça n'a pas été un énorme succès.
Non,
c'était prévu pour être vraiment 2 semaines
vraiment
et 3 primes, en fait.
Et ça avait marché ?
Non.
Enfin, ça n'avait pas foncièrement marché. Voilà. Disons qu'ils n'ont pas annulé ou passé ça en deuxième partie de soirée pour cacher un peu.
Comme il y avait eu la ferme célébrité en Afrique qui, lui, avait fait un gros bide.
Ah oui, clairement. Donc si vous vous souvenez, à l'époque, on avait droit à du Richard Virenque qui avait gagné cette édition de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'était juste après sa retraite cycliste. On avait Loana, Philippe Nikolic, Rip Peter, je partais trop tôt, ouais, ou encore Delphine de Turckheim, nous.
Et quelques vrais inconnus.
Là, j'ai pris vraiment les plus connus.
Parce qu'à l'époque, TF1 était très en mode, on va prendre un gars du Gotha à chaque fois dans nos émissions de télé-réalité People qui va accepter de se faire humilier. Pour on ne sait quelle raison.
Parce qu'il me semble qu'il y avait... C'était pas là aussi qu'il y avait un ex de Madonna ou quelque chose
Non, je crois que c'était un ex de Madonna. Je crois que c'était un secret pourri de Secret de Souris, non
ouais. Ah, peut-être, oui.
Mais c'était l'ex, je crois que c'était un vague danseur qui lui avait roulé une pelle un jour.
Voilà. Et qui s'était fait... Qui s'était fait sortir par un cordon de sécurité parce que Madonna avait justement tenté d'intenter un procès à la prod en mode alors comment vous dire, ça me plaît pas vraiment.
Donc voilà, donc on sait qu'on trouvera toujours des invités de qualité chez TF1, il n'y a pas de souci.
Oui, bah après le but de Je suis une célébrité, c'est vraiment, c'est pas d'avoir des célébrités de tête de liste. Hein.
Oui, il faut avoir un peu du has-been avec une histoire à raconter. Il faut le savoir, hein.
C'est pas le concept. Enfin, là, la dernière saison.
On annonce encore Loana, non
C'est une rumeur, ça
c'est
pas
toujours une rumeur.
Officialisé.
Bah, en même temps, Loana, en fait, tout le monde parie sur sa disparition tragique, plus ou moins long terme, parce qu'elle va quand même pas super fort, donc c'est un peu l'occasion de reprendre des nouvelles, quoi.
Ouais, mais c'est... Alors. Je vais prendre 2 minutes. Vraiment, je suis très payé par le programme parce que c'est un programme qui va être littéralement sale. Hein, il faut être honnête, des people de mauvaise qualité qui viennent absolument pour se faire humilier dans la jungle sur des défis débiles. Par contre, si tu te mets à ramener Loana dans le but, bah oh regardez, c'est on ramène Loana, lol, ça fait le
retour.
Regardez
à quoi elle ressemble
avant,
maintenant.
Pour regarder à quoi, oui voilà aussi, parce que c'est malheureusement le but de pas mal de programmes de télé-réalité où les s'est fait inviter, c'est pour dire bah regardez Loana a changé.
Bien sûr.
Oui, c'est quand même pas ouf. J'ose espérer.
C'est très très sale aussi.
Je pense vraiment que c'est juste une rumeur qui est faite gratos. Hein. Je pense vraiment pas qu'ils la remettront au casting, à mon avis.
Ce serait étonnant, en tout cas, qu'elle revienne pour la deuxième saison.
Même si elle serait ok, peut-être que la prod hésite parce que c'est vrai qu'il y a quand même. Là, on touche un peu.
Dans le tendancieux, là.
C'est
clairement.
Limite non-assistance à personne en danger, quoi.
Vraiment, parce qu'ils veulent vraiment faire plus un programme un peu plus familial. Ce qui fait, c'est pas si compliqué à faire parce qu'au final, c'est beaucoup d'épreuves. Ça revient à la survie dans la jungle avec des célébrités qui vont devoir faire des défis à parfois se faire recouvrir d'insectes ou devoir manger des trucs un peu insolites. Qui maintenant ne.
Donc, il faut des gens exubérants, pas super à l'aise dans la nature.
Ce qui, au final, revient à l'épisode. Ce qui revient à un épisode de Fort Boyard, si vous y réfléchissez bien.
C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est Fort Boyard en plus long, quoi.
Voilà, Fort Boyard dans la jungle.
Sauf que Fort Boyard, on demande quand même que, au moins dans l'équipe, il y ait 2-3 gars un peu physiques. Là, je pense que c'est pas vraiment un critère. Si.
Là, non, là, c'est pas voulu pour être des défis physiques à la Koh-Lanta. C'est vraiment plus pour, vous allez passer 6 semaines dans une. Un peu loin de la civilisation avec un budget, avec une vie à peu près sommaire, avec quelques moyens sûrement d'augmenter un peu et d'améliorer votre vie de temps en temps via des épreuves, mais c'est pas voulu pour être vraiment la survie du plus fort comme l'est devenu Koh-Lanta, quoi.
Mmh. Oh non,
c'est plus pour faire de la vidéo, pour faire des extraits en regardant avec des épreuves un peu choquantes, entre guillemets, pas dans le sens vraiment horripilante, mais dans le sens un peu plus surprenante.
Oui, c'est ça, ouais. ça, surtout que TF1 ne veut plus trop être dans le trash, je pense. Enfin,
on est loin de ce que c'est pour vraiment, 2000, c'est pas trop leur idée. De toute façon, ils ont expulsé Love Story, donc maintenant.
Voilà.
Love Story, Secret Story.
Secret Story.
Oui, bon, personne n'est dupe. Hein.
Voilà. Mais, et surtout, ça se voit dans le casting qui est annoncé. Donc, Loana, c'est vrai que c'était une rumeur. Julien Lepers, visiblement, ça a l'air d'être beaucoup plus confirmé.
Voilà, en vous rappelant que donc.
Je pense qu'il serait chaud, Lepers. Hein.
Ouais. Contre une pièce de 2 euros, hein, le père.
Un ticket à 10 euros, un truc à la télé, il prend.
Voilà.
J'imagine que vous l'avez tous vu sur votre chaîne régionale préférée avec son jeu qui.
Non, ça n'existe plus. Hein, ça
voilà,
n'existe
bah plus oui. Mal, hein. Donc il faut bien qu'il trouve du temps d'antenne. On a aussi Alex Good qui, lui aussi, visiblement, vu que France 4 va disparaître, se dit on va prendre le cachet.
En vous rappelant qu'Alex Good, donc. Présente drôlement bête les animaux en question sur France 4. Ceci est un programme qui existe. c'est con.
Et en plus, c'est en access, hein.
C'est un Prime. C'est même pire, c'est un Prime.
C'est en Prime maintenant.
Oui, c'est en Prime.
Enfin, pour le temps que France 4 existe encore.
Oui, voilà. Donc, d'ici quelques semaines. C'est quand même dommage pour Alex Good qui aurait pu continuer à cachetonner sur Incroyable Talent.
Ah, clairement. Et justement.
Il y a une époque, ils faisaient la météo aussi sur M6. Enfin, bon, il y avait des plans. Hein.
À y être. Hein. Je veux dire, la météo, c'est un peu. C'est pour faire les heures hein, chez M6. Hein.
Oui, mais alors lui, contrairement à plein de présentateurs ou présentatrices météo, il écrivait un peu. Il faisait du style.
Oui. En même temps, ça a toujours été un rigolo, donc.
Oui, c'est ça. Mais bon.
Et dans les rigolos, justement, qu'on attend, il y a aussi Gérard Vives, qui lui aussi. Je pense que c'est toujours
alias
le bon
Gérard
client.
Alias Gérard, d'à côté. Pour oui.
Voilà,
c'est
toujours le bon client pour ce
alias,
genre de
alias le souffre-douleur officiel de la gaffe.
Ah oui, c'est ça.
Et c'est pour ceux qui l'ont déjà vu, il est dans le film Gamer, pour ceux qui voient, qui est un film assez, un vrai nanar sur les jeux vidéo. Et il joue une sorte de Jean-Claude Van Damme qui fait du motion capture pour un jeu vidéo. Enfin bref. C'est absolument terrible.
Mais ce serait surprenant parce que Vives
le mec switch l'accent français anglais parce qu'il c'est soi-disant star américain mais il arrive pas bien. Enfin bref, il joue mal.
Oui,
le film est nul. Il y a Saïd
Tamaoui
et Ariel Dombal dedans.
Oui aussi. Mais pour Vives, ce serait surprenant parce que je pense qu'il avait après le fait qu'il s'était fait virer du juste prix un peu pour mettre d'autres personnages.
Oui.
Il avait plus trop. Il était plus trop chaud pour ça et pour TF1. Donc bon, je pense que peut-être qu'il a peut-être faim, mais ça me surprend. Je pense que c'était quand même plutôt quelqu'un d'intègre sur ce côté-là.
Voilà, mais ça, c'est pour le moment, on n'a pas encore de confirmation. Les seules confirmations qu'on a, c'est que ce sera en Afrique du Sud,
oui.
Que ce sera Christophe de Chavannes.
Ils vont sûrement utiliser le plateau qui doit être utilisé pour pas mal de versions, dont la version anglaise qui reste la plus populaire.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, c'est un concept qui a déjà 20 ans.
C'est un concept qui a 15 quinzaine d'années en Angleterre, qui a un énorme carton là-bas. Bah, là, ils ont bien fait bouger le concept. Même maintenant, tu commences à avoir des célébrités un peu moins haut de gamme qui vraiment s'aventurent dans le truc. Donc, c'est vraiment, ça a gagné, c'est de l'obèse. Mais c'est populaire en Australie aussi, dans pas mal de pays. Je pense que c'est ça qui leur a donné envie de relancer la TF1 parce que c'est. Tu peux faire un programme qui est quand même plutôt familial au final, qui est pas trop débile, qui est un peu marrant, qui va pas coûter si cher que ça parce que c'est sur un plateau qui doit être mutualisé à l'année, qui sera pas en direct, c'est surtout ça qu'il faut noter, ce sera t'auras pas de quotidienne, t'auras juste des primes hebdo, qui me semble être pas con, parce que t'as pas besoin de faire beaucoup de primes sur ça, c'est un peu comme le fonctionnement de Big Brother aux États-Unis, t'as juste une hebdo par semaine et ils pourront toujours distiller du contenu via les réseaux sociaux. Jour par jour pour donner envie. Voilà, c'est pas, je pense pas que ça va leur coûter des 100 et des 1000 et ça peut faire quelque chose de marrant. Et l'animation avec De Chavannes et Boccolini, personnellement, je suis très. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner parce que ça peut vraiment faire un couple qui peut être vraiment complémentaire dans l'humour.
Bah déjà, dans La Ferme, il faisait plutôt de la vanne, De Chavannes à l'époque. Avec Carmouze, mais le Boccolini qui est pas là derrière pour la déconne, je pense qu'il y a moyen que ce soit pas mal.
Parce que déjà
complètement second degré foutage de gueule.
Le duo de Chavannes Foucault était juste improbable, mais était
ça
à peu près le truc.
Encore.
Le truc qui sauvait un peu le programme parce qu'ils étaient vraiment en mode n'importe comment, ils allaient à fond. Ils n'en avaient rien à foutre. Boccolini avait fait Première Compagnie aussi. Elle était un peu en mode un peu rien à foutre aussi. Donc je pense.
Ah, je me souvenais même pas, tiens.
Ouais, c'était une émission. Il y avait qu'une seule saison, comme pas mal.
Il y avait Castaldi père. Je crois.
Avec le père Castaldi, avec Moscato, avec plein d'autres pseudo-célébrités. Oui, c'était au lieu de La Ferme, c'était la caserne avec forcément tout le monde qui se faisait humilier parce qu'ils n'arrivent pas à faire les épreuves physiques. Mais je pense que les deux peuvent faire vraiment le duo qui peut partir totalement. Vrille en sous-texte et ça peut faire quelque chose d'assez exceptionnel.
On va voir quand ça sera diffusé parce que ça on n'a pas encore eu de précision.
Je vois ça printemps été sûrement parce qu'il faut que ça soit à un moment à peu près où ce
pour
soit
la légèreté.
Climatique voilà.
À la fin après The Voice ou quoi.
Ils pourront pas le faire en été parce que ça va être compliqué à mon avis, mais ce sera printemps-été.
Ok, parfait. On suivra ça donc justement sur TF1.
Retombons dans la lourdeur.
Et voilà, on termine malheureusement avec une autre mauvaise nouvelle qu'on a eue durant la semaine. C'est la fin de Explicit, le média des anciens de iTélé. Il y a une dizaine d'anciens journalistes et employés d'iTélé avaient créé ce média justement quelques mois. Après tout le ramdam autour de la création de CNews et la grève qui avait duré quasiment 2 mois, justement, du côté de iTélé. Donc ils avaient lancé un média web et vidéo, ils faisaient beaucoup de reportages. La ligne éditoriale était un peu bizarre dans le sens où ils voulaient tenter parfois du hot news et en même temps faire des reportages au long cours, donc ils étaient toujours entre les deux. Et finalement, au bout d'un an, malheureusement, ils doivent cesser leurs activités. Le fait est qu'ils espéraient 19 000 abonnements pour être justement dans les clous. J'avoue que 19 000, c'est quand même...
C'est beaucoup.
C'est énorme quand même. Et là, ils sont péniblement arrivés à 5 000 abonnements payants.
C'est déjà pas mal pour un média dont on n'entend pas du tout parler.
J'avoue que de mon côté, à part justement les suivre sur Twitter, j'avais quasiment jamais d'autres mentions de explicite.
Je dois rappeler que donc, les jours sont péniblement à 8000, 9000 en forçant tous les jours sur leur campagne d'abonnement.
Ils
n'ont
pas réussi à rentrer dans leurs objectifs d'abonnement, je crois, les jours.
Non, ils n'ont pas. Je pense qu'ils arrivent à survivre et au prix, j'ai l'impression qu'ils font déjà beaucoup moins de reportages. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de séries actuellement. Ils ont contenu quelques-unes qui étaient populaires, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés, donc c'est pas impossible qu'ils aient fait des coupes là-dedans.
Et encore, les jours, entre guillemets, ne fait que de l'écrit et un peu de podcast maintenant. Ils ont un reportage de podcast, on va dire. Mais voilà, donc c'est très limité, alors qu'Explicite, en plus, voulait faire de la vidéo et tenter. Donc ça demande encore plus de moyens. Donc vraiment, espérer 19 000 abonnements, c'était très optimiste. Malheureusement, c'est la confirmation que lancer aujourd'hui un pure player ou un média vidéo, bah, c'est clairement casse-gueule si on n'a pas de financement, d'investisseurs ou autre. Parce que Brut, certes, fonctionne très bien, mais quand on a Levan Kim derrière
qui
a réussi à négocier avec beaucoup d'autres groupes, c'est clairement plus simple.
Je rappelle que Levan Kim, au départ, c'est l'ancien réal du Grand Journal, qui avait une grosse boîte de prod qui s'appelait KM. Tu dois encore l'avoir, d'ailleurs. Enfin, c'est un mec qui pesait lourd dans l'audiovisuel avant de lancer Brut. Hein. C'est pas un type qui est parti.
Il avait un carnet de contact, voilà.
Oui, donc voilà, ici, comme tu disais, Joachim, ils revendent souvent leur reportage du côté de France Télévisions. J'ai vu qu'ils faisaient ça aussi avec la RTBF en Belgique. Il y a plusieurs reportages qui se retrouvent sur le site de la télévision belge, justement dans le lecteur de la RTBF et tout, donc ça a bien été racheté. Mais donc voilà, je vois pas d'autres pure players qui pourrait encore tenir la distance, qu'on risque d'arriver vers une sélection naturelle malheureusement, et qu'il restera quasiment plus que, par exemple, Brut. Les jours, ça s'annonce en effet compliqué. Et à la limite, qu'est-ce qui reste? Slate, éventuellement, si on considère...
Slate, c'est du podcast, même, c'est même plus de la vidéo, au final.
Oui, au niveau Slate France, c'est vrai, oui.
Tout ça, c'est des choses dont on n'est pas très certain de la rentabilité au final.
Je parlais aussi de Loopsider aussi, le fameux média vidéo qui avait été lancé notamment par Johan Hufnagel, où on voit des vidéos popper, mais pas grand-chose.
C'est un énorme succès, je les vois rarement les vidéos. Beaucoup moins en tout cas que celle de Brut.
Ouais. Oui, aussi, pareil.
Et pas beaucoup de contenu original.
Je trouve que c'est à peu près les mêmes trucs.
À la limite, il y a Combini aussi. J'y pense maintenant.
Combini,
voilà.
Combini News.
Combini, c'est autant du hate watching que du. Enfin, ça dépend. Il y a les fanzous d'Hugo Clément.
Oui.
Il y a ceux qui postent. Est-ce qu'il faut encore ça, là, les actrices françaises qui font des textes de rap, qui déclament des textes de rap comme si c'était le cours Florent? Ça, c'était.
Non, parce que ça doit générer justement du clic facile.
Oui, c'est du clic facile un peu genre Malaise TV, quoi. Bref.
Non, mais c'est clairement ça.
Mais ce qui est triste, c'est pour en revenir à Explicite, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre la masse critique. Et là, en fait, ça s'arrête parce qu'ils ont eu une nouvelle campagne de levée de fonds qu'ils n'ont pas arrivé à amener à bout. Mm-hmm. Mais grosso modo, la leçon qui ressort, parce que les jours, il n'est pas garanti que ce soit machin, c'est des médias indépendants, mais qui vivent de business angel, de mecs qui lâchent du million pour faire durer un an, deux ans, trois ans. La rentabilité, pour l'instant, on en est loin, à part Mediapart, pour l'instant.
Pendant qu'on y est, on peut lâcher un mot sur Boxon aussi, qui est passé en grosse pause pour rentrer dans le giron du média podcast dont j'ai oublié le nom.
Salto ?
Non, de notre ami de Radio France.
De Mathieu Gallet,
merci.
Ah,
pardon.
Oui, apparemment.
De Magellan,
c'est ce que j'ai compris.
Bah, bon, là voilà, typiquement Magellan, c'est quoi? C'est l'argent public, on va pouvoir balancer de l'argent par les fenêtres, ça peut durer des années, mais un truc rentable, indépendant, privé et qui dure, j'en vois pas tellement.
C'est très complexe.
Après, bon, la presse, ça va pas fort. C'est pas étonnant qu'y compris les pure players ou les indépendants.
Non, mais cet argument de la presse, ça va pas fort, c'est
bah,
le sens
truc, c'est
aussi
que... Moi,
que...
si je prends mon exemple, moi, j'étais pas abonné explicite. Je suis abonné le jour. En fait, on choisit ses batailles. Il y a un moment où vous pouvez pas lâcher 10
mais
balles
c'est,
à tout le
c'est dans ce sens-là que je voulais aller. C'est que un moment, c'est très compliqué. Même
et
si tu dis aux gens...
N'était pas assez intéressante, en tout cas, de mon point de vue, ou en tout cas, peut-être je suis passé au travers, je sais pas, pour que je lâche, mais c'était, je crois, 14 au début. Hein, bref.
Oui, c'était 14,99 au début.
Mais c'est compliqué, hein, quand même. 15 euros par-ci, 15 euros par-là.
C'est ça, voilà. C'est à un moment, tu te dis, bon, bah, ok, j'ai mis 5 euros par mois dans un média, 5 euros là et 5 euros là, ça fait déjà 15 euros. J'ai pas forcément encore envie d'en mettre, même si... On peut t'expliquer que oui, mais c'est juste comme si tu payais un sandwich par mois ou une salade par mois. Oui, mais justement, pour le moment, c'est complexe. Je crois que c'est aussi...
On arbitre, en fait. Moi, je sais pas, je m'étais abonné à Gamekult parce que il y a aussi le côté militant où on veut aider un média, même si parfois on picore à peine. J'ai Le Monde parce que je trouve que Le Monde, c'est vraiment mon canard. Ils sortent des infos, l'affaire Benalla, c'est eux, je rappelle au départ. Voilà, enfin, pour 10 balles, vous avez vraiment des papiers que vous voyez nulle part ailleurs, des papiers bien écrits. Des choses comme ça. Le truc, c'est qu'explicite, pour 15 euros, j'avais pas le sentiment d'être servi, quoi. Les jours, ça m'intéressait parce que le côté feuilletonnant, genre, j'aime bien les Gary Bertz, j'aime bien Sophia Fanen, enfin, il y avait des plumes que j'ai suivies et que j'aimais bien. Explicite, alors, pour connaître un peu les anciens ITélé, il y avait personne, il y avait rien qui me donnait le coup de cœur, l'envie de le faire. Et je pense qu'ils étaient pas assez originaux, sur la forme et sur le fond, pour que ça me convainque. Peut-être que je suis passé au travers, j'en sais rien. Mais...
Bah écoute, voilà. Mais en tout cas, on souhaite bon courage à tous ces anciens. Déjà, anciens d'ITélé, anciens d'Explicite.
Qui ont mis de l'argent dedans, parce que le patron, Olivier Ravanello, il a une réputation, il est connu, il est un peu éditorialiste, donc je pense que lui, il n'aura pas trop de problèmes à retrouver du boulot. Je crois qu'il faisait des éditos sur France Q à une époque. Enfin bref, il va y arriver. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus des petites mains et qui ont perdu des sous et vont peut-être avoir du mal à retrouver du boulot. Enfin,
Donc voilà, courage à eux en tout cas. On termine en tout cas ici les actualités. On se retrouve après une petite pause.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro d'étolier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'étolier, une émission Radio Kawa. With the devil in the shotgun place, living it down to
saw your face, honey. C'est l'heure maintenant du courrier des auditeurs. Comme lors de chaque émission, nous tentons de répondre à vos questions que vous nous posez par email à tvnr@radiokawa.com ou sur le compte Twitter de l'émission @tvnrshow. Et on commence avec une question de MeTrunks via Twitter qui nous demande à quand une émission consacrée aux médias francophones disponibles depuis l'étranger. On nous avait déjà posé la question et c'est vrai que on a quelque peu zappé ce sujet, on peut le dire, et que on va, je pense, quand même le prévoir d'ici la fin de la saison. Il faut qu'on se cale ça dans la semaine. Mais voilà.
En fait, quand on parle de ça, on parle des médias francophones qui ne sont pas français, quoi, qui sont basés à l'étranger, c'est ça?
Je vais lui demander peut-être de préciser sa question. Donc, si MeTrunks, tu nous écoutes, tu peux
nous préciser... Est-ce que c'est pour parler genre du Devoir,
tu peux nous préciser la
le
question,
quotidien québécois ou le
ou,
soir
ou voilà, ou si c'est justement le fait de pouvoir de tout ce qui est TV5 Monde, RFI, en effet.
Ouais.
Donc, justement, accéder à toutes ces émissions francophones.
Ou alors, parce que j'ai aussi interprété la question de la façon de ce qu'on peut consulter de l'étranger, parce qu'il y a plein de choses qui sont géobloquées et il y a des choses qui sont consultables. Je pense la passer.
Mais là, du
pas
coup, voilà, tous ces trucs-là de VPN, etc., à mon avis, on ne rentrera pas du tout là-dedans. Oui. Mais
non,
c'est
mais parce qu'en plus, avec la RGPD, il y a des. Alors, je pense que ça ne marche pas dans ce sens-là, mais je sais que. Ici, vous allez des fois sur des quotidiens locaux américains, ils se font pas chier à respecter la RGPD.
Il y avait ça sur le Los Angeles Times et sur le Washington Post.
Ils vous disent
Post.
Vous pouvez pas accéder à cause de la réglementation.
Pareil au Canada sur toutes les propriétés du groupe Québécois, c'est hop, oh, désolé.
Ouais, on n'a pas envie de s'embêter à vous faire des trucs de cookies, refuser, machin. Plutôt que vous faire
compliqué.
Un truc compliqué, vous comprenez rien et vous allez passer 10 minutes à choisir. On vous bloque, c'est réglé.
Voilà, c'est ça le problème. Mais voilà, donc MeTrunks, si tu peux nous préciser quelque peu ta question, n'hésite pas, donc sur le compte Twitter de l'émission, @tvnrshow ou
on sera ravis
par
de
email. Voilà. Over and Over Again via Twitter qui nous demande, avec les négociations avec M6 de rachat des chaînes de télé du groupe Lagardère, est-ce que Lagardère a encore une stratégie média ? Avec les audiences catastrophiques d'Europe 1, le groupe va-t-il tenter de le redresser avant de le vendre ou va-t-il le brader ? Pour la première,
c'est un peu dans la question.
Oui.
Voilà. Pour la première question, disons que Lagardère en effet n'a quasiment plus rien en télévision à part, comme on disait, une part minoritaire dans Mezzo. Mais après, ils ont toujours des parts dans des maisons de production aussi, et notamment chez Réservoir Prod, qui certes n'a plus la puissance qu'elle avait quand c'était Jean-Luc Delarue qui dirigeait la boîte de prod, mais qui continue à développer des concepts d'émissions, surtout pour les chaînes de la TNT pour le moment. Donc voilà, ils ont toujours ça.
Qui produit à l'année, ça commence aujourd'hui sur France 2 quand même, c'est une grosse prod au final.
Oui, j'avais oublié qu'ils faisaient ça. Bah donc voilà, donc ils ont quand même toujours des parts dans l'audiovisuel. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Après,
ils ont aussi des magazines.
Ils ont toujours des magazines, mais voilà, j'imagine qu'ils voulaient parler surtout stratégie média, télé, radio. Mais oui, au niveau presse-papier, ils ont toujours.
Le JDD, Paris Match.
Tout ce qui est France Dimanche.
Marie-France, des trucs comme ça. Elle, c'est Lagardère aussi.
Non. Si, elle, c'est toujours Lagardère.
Elle France,
voilà, parce qu'ils ont revendu la marque à l'international.
Ils ont revendu très intelligemment toute leur activité journalistique à l'international, dont elle, qui était absolument une mine d'or, mais bon, c'est pas grave.
Malheureusement. Oui. Mais ils avaient aussi Télé 7 jours, etc., si je me souviens bien. Donc là, à ce niveau-là, en effet, ils ont toujours une bonne part. Après, pour Europe 1...
Ah bah non, là, je viens de regarder. Elle a été vendue à notre ami Daniel Kretinsky.
C'est vrai que toute la partie des journaux français a été revendue au Kretinsky.
Ah oui, en plus. Donc oui, c'est vrai. Ouf,
on en perd
nos mots. Donc du coup, oui, il reste plus grand-chose. Il reste Europe 1. Et Europe 1, en effet...
Europe 1 qui va être vendu, à mon avis,
quelqu'un.
On en a déjà parlé dans de nombreux numéros de TVNers. Le plus gros acheteur potentiel pourrait être TF1.
Voilà, ce serait une surprise entre guillemets de voir TF1 se lancer, mais c'est vrai que c'est clairement une envie de leur part depuis longtemps, donc pourquoi
TF1
pas
au canal pour faire ses news radio.
Oui, fou. J'essaye d'imaginer, mais oui, c'est vrai que c'est une possibilité.
Je pense qu'on l'avait déjà évoqué aussi. Bah, tu fais du comme à la BFM Business, tu fais du simulcast radio, tu rajoutes un peu de contenu. T'as ton truc qui tourne facilement et hop, t'as ton CNews qui est démultiplié puissance 10 via le réseau d'Europe 1.
Mais c'est vrai que cette technique de diffuser la radio en télévision. Et risque de sauver beaucoup de médias, les synergies vont pleuvoir, je pense, à ce niveau-là. Mais donc voilà, pour Europe 1, je pense clairement qu'il y a bien un moment où Lagardère va revendre.
Ça va être bradé, ça va sûrement être bradé dès qu'il en aura un peu marre et ça risque d'aller vite.
Non, clairement. Donc voilà, pour répondre à ta question, over and over again. On va passer tout de suite aux recommandations. Olivier, tu veux nous parler d'un documentaire qui va passer sur Arte.
Oui, vendredi 15. Alors, ça s'appelle Jodorowsky's Dune ou Dune de Jodorowsky. Jodorowsky's Dune, c'est le titre anglais de ce docu. Alors, comme son nom l'indique, ça parle du film Dune, de Alexandre Jodorowsky. Ne le cherchez pas, ce film n'existe pas. Car en fait, le docu raconte l'histoire de la pré-production de ce film. C'était dans les années 74, 75, me semble-t-il. En gros, Alexandre Jodorowsky, qui sortait cinéaste mondialement connu, franco-chilien, très art et essai, concept, très belles images, très beau faiseur d'images, qui sortait d'un film qui s'appelait La Montagne Sacrée, avait décidé d'adapter le best-seller de Frank Herbert, Dune. Pour ceux qui connaissent, donc c'est une saga de science-fiction très très perchée, on va dire métaphysico machin, avec des énormes vers qui vivent dans le désert. Enfin, ça, c'est le truc un peu spectaculaire de cette histoire. Donc, Alexandre Jodorowsky arrive à convaincre Michel Seydoux, le père de Léa Seydoux, si vous voyez, grand producteur français, de se lancer dans la production d'un Dune, un film, sur l'adaptation de cet univers. A priori, gros défi, parce que l'univers est complètement what the fuck, donc ça demande un énorme budget. Et donc, il se lance là-dedans, et alors, ce qui est vraiment hallucinant là-dedans, c'est que c'est quand même un best-of au niveau de l'équipe artistique, puisqu'il y avait Jodorowsky qui est déjà un psychopathe qui a pondu une espèce d'annuaire en guise de scénario au moment où on disait qu'il y avait 14 heures de rush à fournir, enfin bref, c'est un truc phénoménal, enfin ils imaginent une saga de 14 heures. Bon, c'est un peu redescendu, il faut dire que Jodorowsky à l'époque carburait quand même avec des trucs qui n'étaient pas tout à fait de l'eau claire, mais dans l'équipe de design, il y avait Moebius, Jean Giraud, grand, énorme dessinateur de BD qui est décédé depuis, mais français, qui a fait l'Incal, hein, si vous connaissez cette saga. H.R. Giger, qui est un artiste suisse mondialement connu, on en reparlera pour quelle raison un peu plus tard. Et Chris Foss, qui était la personne qui était chargée de dessiner un petit peu sur tous les vaisseaux, les trucs comme ça. Enfin bref, les gens connus. Il y avait également aux effets spéciaux Dan O'Bannon, dont on parlera un peu plus tard. Enfin, c'est que des gens. En gros, c'est une sorte de best-of des plus grands artistes de l'époque, en tout cas designers. Côté casting, il y avait. En tout cas, on pensait qu'il y aurait Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali ou encore Amanda Lear et le fils de Jodorowsky qui avait 14 ans à l'époque pour jouer Paul Atreides qui est quand même le personnage principal, donc c'était un peu du népotisme. Pour la musique, il a contacté plein de groupes dont Gong, je ne sais plus quoi, il y avait Tangerine Dream qui était un groupe qui a fait plein de BO de films et finalement il s'est juste contenté d'avoir Pink Floyd et Magma, en tout cas c'est ce qu'il avait signé au départ. Donc en gros, le projet, le côté artistique était énorme. Le seul truc, c'est que par manque d'argent, la production s'est arrêtée en cours de route. Et ça a provoqué la dépression de beaucoup de monde dans l'équipe de développement, puisqu'ils étaient tous à Paris dans des apparts, à bosser non-stop. Enfin, en tout cas, ça brainstormait assez fort. Si vous regardez le docu, il y avait des idées, c'était n'importe quoi. Enfin, Jodorowsky, c'est un mec perché. Tout le monde autour était quand même pas mal aussi bien haut. Donc en gros, le projet était assez phénoménal. Ça sentait que ça allait dans le mur quand même, parce que les mecs étaient quand même bien partis loin. Mais ce film, qu'on peut dire c'est un peu le meilleur film jamais tourné, et a provoqué d'autres choses. C'est que c'est la pré-production de Dune qui a créé la rencontre entre Dan O'Bannon, futur scénariste, et H.R. Giger, futur designer, de la créature de Alien, le huitième passager de Ridley Scott. C'est là qu'ils se sont rencontrés. En fait, c'est Dan O'Bannon qui rencontre Giger, qui est à l'époque un artiste russe, suisse, un peu barré, toujours barré d'ailleurs, hein, mais qui vit un peu en reclus, chelou, l'air un peu vampire, et qui est tellement impressionné par ses dessins qu'il les conseille à Ridley Scott pour lui dessiner la créature d'Alien. Donc la créature d'Alien ressemble à ce qu'elle ressemble, parce que Dan O'Bannon a bossé sur la pré-production de Dune à Paris avec ce type. Donc en gros, ça a provoqué plein de choses dans la science-fiction, on va dire, si ce film n'avait pas été tenté et loupé, on n'aurait pas eu une créature alien qui ressemble à ça. Sachez que Dune a quand même été réalisé en film en 1984, un film de David Lynch, assez unanimement considéré comme loin d'être son meilleur. Pour ceux qui aiment Dune, alors il y a les romans, il y a des jeux vidéo qui sont très bien d'ailleurs aussi, des RTS, et il y a aussi un prochain film Dune qui va sortir en 2020, réalisé par Denis Villeneuve. Pour ceux qui connaissent, c'est le réalisateur québécois qui a fait Blade Runner 2049 ou encore Premier Contact. Donc c'est assez prometteur. Voilà.
Ok. Bah,
je vous conseille
beaucoup.
Le docu, ça parle de cette histoire qui est assez hallucinante.
Parfait, ben merci beaucoup. Et il me semble que justement, le fossoyeur de film en avait parlé justement sur une vidéo YouTube. Enfin, en tout cas, il avait parlé du film de David Lynch et il avait justement évoqué aussi ce projet un peu fou qui n'avait jamais vu le jour.
Oui, une vidéo du fossoyeur qui résume bien le truc. Quoi.
Voilà. Joachim, est-ce que tu as une suggestion, une recommandation à faire à nos spectateurs?
Ma recommandation, buvez de l'eau. Je n'ai pas mieux.
Super. Ben, merci beaucoup. C'est important quand même hein, de rester hydraté.
Hydratez-vous. Voilà. On ne le dit pas assez.
Parfait. Moi, je pense que tu es payé par le lobby de l'eau, à
oui.
mon avis.
Mais il y a beaucoup de lobbies de nos jours, c'est terrible. De mon côté, je vais vous faire une recommandation aussi du 15 février, mais vous pouvez regarder ça juste avant de regarder le documentaire d'Olivier. C'est en prime time, ce soir c'est Palma Show sur TF1, pour le moment donc on a vu que des teasers, on n'a pas du tout vu encore tous les sketchs, donc ce sera un sketch show du Palma Show, si vous connaissez pas c'est un duo, Grégoire Marsais et David Ludig qui partent dans des délires, des petits sketchs de 10-15 secondes à chaque fois qui s'enchaînent assez rapidement, ils font des parodies, ils ont déjà fait plusieurs primes sur C8 que vous pouvez regarder tous les sketchs sur leur chaîne YouTube. Donc voilà, moi je pense pas en tout cas que ça va changer entre C8 et TF1, que les gags ne seront pas forcément édulcorés. Justement, c'est bien que TF1 tente ce genre de choses, parce que un sketch show sur TF1 en prime, je pense
qu'il y a très 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 longtemps qu'on n'avait plus ça. Même de l'humour en prime sur TF1, à part des spectacles en direct, franchement, c'est assez rare ce genre d'humour. Donc voilà, ça change d'un énième Vendredi Tout est Permis avec Arthur que j'ai encore vu samedi dernier sur TF1. J'ai toujours pas compris comment ça continue, mais bref.
Parce que ça coûte à peu près 2 euros à produire.
Mais oui, mais c'est ça le gros gros problème justement. Mais donc voilà, donc si vous avez l'occasion, ce soir c'est Palma Show sur TF1, c'est le vendredi 15 février.
Bah, comme le Dune de Jodorowsky, donc
bah oui, c'est pour ça.
Il faudra faire
donc
son choix. Bon, non, mais c'est non, la deuxième partie de soirée. Mais
voilà, vous pouvez regarder ça en prime et puis le documentaire.
Ah, mais
sur Arte,
je crois que le Palma Show ça dure toute la soirée parce qu'il y a un truc, ça continue et puis déjà c'est long, hein, je crois.
Enfin, oui, mais après les ça continue, ce sera quoi?
Ce sera des rediffs.
Voilà. Ce sera les rediffs du sûrement du bêtisier plus les rediffs de sketch.
Voilà, donc ça je ne m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Vous aurez de quoi faire durant cette soirée de vendredi. Et c'est ici que nous allons nous quitter sur ce 112e numéro de TVNR. Merci beaucoup Joachim pour ta présence.
Merci beaucoup à toi également.
Merci beaucoup à Olivier.
Mais de rien, toujours un plaisir.
Toujours. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous suivre. TVNR est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Continuez à soutenir TVNR et toutes les autres émissions Radio Kawa sur patreon.com/radiokawa. Cela permet notamment l'organisation d'émissions en public comme nous avons connu ce week-end et que vous allez retrouver rapidement en replay sur radiokawa.com. Un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide à faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de TVNR et 24h sur 24 pour le replay en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Kawa, radiokawa.com. Merci beaucoup à toutes et à tous et ciao ciao.
Salut.
Salut.
Radio Kawa.